Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec. J'espère que vous avez passé une excellente journée, quoique c'était extrêmement venteux aujourd'hui. Ça l'était à Québec, il y avait un peu de neige, il y a eu quelques problèmes d'électricité là, pour ce qui est d'Hydro-Québec qui ont été rapportés, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est dans l'ouest du Québec. Mettons que je prends Montréal et les environs, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont manqué de courant. Pas si pire parce qu'on est autour de 0 degré. On est content que ce soit pas un genre de moins 20, mais je sais que bon, il y a eu certaines problématiques. Et ce matin, quand je me suis levé, j'ai pensé à mon invité de ce soir. Je me suis dit, j'espère qu'il va avoir du courant parce que pour réaliser cette émission-là, on n'a pas le choix. Ça prend du courant. Puis il est chez lui en direct de Montréal. Son nom, c'est Michel Villa, qui est chroniqueur et formateur boursier. Très content de l'avoir avec moi en entrevue. Salut Michel!
Bonjour Yannick, puis j'ai du courant, inquiète-toi pas avec ça.
Ouais, avez-vous reçu un peu de neige? Parce qu'à Québec, il y a neigé, mais c'était de la neige un peu fondante, là, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas l'impression qu'il a neigé tant que ça.
Écoute, il y a une quinzaine de centimètres qui est tombée, puis il y a au moins peut-être une quinzaine d'établissements fermés. Sur l'île de Montréal, au niveau scolaire. Donc, oui, on est dans un mode de tempête.
Ouais. Michel Villa, comment t'en es venu à t'intéresser à la bourse? Est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la bourse quand c'était la fameuse bourse papier où les messieurs à moustache regardaient ça avec une grande attention et prenaient leur code de bourse pour après ça envoyer des lettres pour acheter des actions à la bourse?
Écoute, ça remonte un peu là, avant ça, là, je te dirais, les années 90. Je ne sais pas quel âge que tu as, mais moi, je vais avoir 50 ans cette année. Puis à l'époque, il y avait un bar qui s'appelait Le Vogue, sur la rue d'Artigny, dans le Vieux-Québec, proche de la Grande Allée. Puis j'étais devenu copropriétaire du Vogue dans les années 90, à l'âge de 20 ans.
Ben, c'est un établissement. Nous autres, on allait à l'université, puis c'était un établissement qu'on fréquentait. Oui, ouais, il y avait le Sherlock, ça se peut-tu? Sherlock Holmes aussi?
Oui, qui était en dessous. Donc, il y avait le Vogue à l'étage principal. Tu vas jouer au billard.
Oui.
Et la discothèque au troisième. Donc, je me suis ramassé là, copropriétaire avec des chums. Fait ça pendant 4 ans. Puis là, j'ai vraiment eu la fibre entrepreneuriale. Puis t'as vraiment une roche d'adrénaline quand t'es copropriétaire d'un bar. Tu vas faire du développement d'affaires, aller chercher des assos pour des parties. Tu vas-tu payer ton loyer pour le prochain mois? Bref, ça a été une expérience incroyable. Puis quand j'ai décidé de faire un retour à l'école, je cherchais un emploi qui me donnait ce roche d'adrénaline-là.
OK.
C'était la bourse. Et à l'époque, il y avait un film qui s'appelait Wall Street, avec Michael Douglas.
Ouais.
Et là, c'était la vie des gens riches et célèbres. Je me suis dit, ouais, c'est ça que je vais faire plus tard. Donc, j'ai fait mon bac, ma maîtrise, puis j'ai décroché un emploi comme trader à Hydro-Québec au début des années 2000. Puis c'est là que j'ai eu le coup de cœur pour devenir là, trader dans le domaine boursier, essayer de faire de l'argent à la bourse en achetant et vendant des actions. Donc, ça vient de là un peu, mon petit côté, là, j'ai le goût de faire de l'argent. J'ai le goût d'avoir cette adrénaline-là puis me dépasser.
Tu avais une motivation à ce niveau-là. Puis, hey, tu piques ma curiosité, un trader boursier chez Hydro-Québec, vous faisiez quoi, là?
Bien, chez Hydro-Québec, ils vont négocier activement l'énergie. Donc, évidemment, tout dépendamment le niveau là, de demande d'électricité au Québec, on va négocier autour de ça quand on est en surplus versus déficit. Mais tu as aussi la caisse de retraite. Donc, pour les employés d'Hydro-Québec, tu as un fonds de pension. Et ces gens-là, à la retraite, vont recevoir une prestation de retraite, donc un montant d'argent. Donc, il y a une équipe de gestion de portefeuille en place pour pouvoir gérer ces sous-là. Donc, le gestionnaire de portefeuille, c'est lui qui décide d'investir, mettons, dans une compagnie comme Bell.
Ouais.
Mais ils vont besoin d'analystes financiers qui vont faire des recherches sur l'action. Et quand vient le temps de faire l'exécution de la transaction, ben, il appelle un trader, comme moi.
Ah oui, puis est-ce que c'est une job où il y avait énormément de mouvements? Est-ce que c'était du 8 à 5, puis à chaque minute, tu devais faire des transactions? Ou il y avait beaucoup d'analyses au travers de ça, puis les moves se faisaient peut-être…
Ça joue beaucoup le matin, parce que le marché boursier rouvre de 9h30 jusqu'à 4h.
Ouais.
Tu dois préparer ta journée avant l'ouverture des marchés. Mais je te dirais qu'au cours de la journée, c'est vraiment suivre l'actualité financière, économique, boursière. Mais tout dépendamment de la volatilité, c'est-à-dire les fluctuations boursières et dans le fond, les nouvelles qui arrivent, tu vas être plus actif ou moins actif. Donc, c'est vraiment un mélange d'analyse et d'exécution. Puis comme je te disais, ben ce côté-là, adrénaline, tu veux vraiment bien performer, aller chercher un bon prix. Et là, tu avais vraiment l'arrivée plus de la technologie qui faisait qu'on commençait à automatiser davantage les transactions. Donc, juste te donner une idée, en 2000, sur le desk de Goldman Sachs, qui est une firme d'investissement aux États-Unis, il y avait environ 600 traders. Puis là, tu as peut-être une dizaine de traders dans certaines unités. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé beaucoup de traders par la technologie, la programmation informatique, l'intelligence artificielle. Donc, c'est un emploi qui va toujours perdurer, mais il y a beaucoup moins de gens qui travaillent dans ce domaine-là à cause de l'automatisation des programmes de trading qu'on a vu les dernières années.
OK. Puis pendant le temps que tu étais chez Hydro-Québec comme trader, est-ce que tu tradais au niveau personnel aussi?
Non, ben on avait certaines règles à respecter
OK.
quand même. Parce qu'imagine, tu es en train de négocier tes propres actions en même temps que ton employeur achète des actions. Donc, il fallait faire attention à ça. Mais tu sais, j'ai fait 5 ans et demi à Hydro-Québec. Par la suite, je suis allé au CN, le fonds de pension du CN, pour faire le même type d'emploi. Puis par la suite, je suis allé du côté institution financière, où ce que là, j'ai fait des transactions pour la Banque Scotia et la Banque Laurentienne.
OK.
Et là, après, j'ai commencé à négocier activement pour moi.
Fait que tu as commencé avec l'argent des autres, tu t'es pratiqué avec l'argent des autres, puis finalement, une fois que tu étais rendu bon, tu t'es dit, tiens, je vais le faire pour moi.
Oui, c'est ça. Puis là, tu l'as dit. Quand tu penses que tu es bon,
Ouais.
quand tu gères l'argent pour les autres, Yannick, tu as quand même un détachement émotionnel.
Ouais.
Mais quand tu commences à gérer l'argent pour toi, puis tu dois mettre du beurre sur les toasts, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu rencontres l'ego. Puis l'ego, il va avoir raison. Il veut faire de l'argent. Puis là, tu réalises que tu n'es pas si bon que ça. Et là, j'ai mangé des claques à la gueule à une couple de reprises
Ben
parce que je n'avais pas le savoir-être, qui est la gestion des émotions pour une bonne prise de décision, mais j'avais tout le savoir. Tu sais, je disais tantôt que j'étais cherché mon bac, ma maîtrise, j'ai fait un paquet de cours aussi. Et là, tu penses que ça va te permettre de tirer ton épingle du jeu. Mais là, entre les deux oreilles, j'étais émotif, puis je te disais tantôt, rush d'adrénaline. Tu veux pas ça quand tu es un trader. Ça, c'est peut-être un plus grand mythe. C'est que premièrement, on ne joue pas à la bourse. Donc, si tu joues à la bourse, tu amènes un côté qui est moins sérieux à la chose. C'est très sérieux quand tu investis à la bourse parce que
Ouais.
c'est tes propres épargnes que tu mets
C'est
en
ça.
jeu.
Parce que toi, t'en as fait un métier. Moi, je considère que je joue encore à la bourse parce que 90% de l'argent que je mets de côté, c'est géré par quelqu'un qui est un planificateur financier. Mais moi, je me garde un petit pourcentage pour aller sur la bourse. Puis jusqu'à maintenant, je veux pas me vanter, mais ça va super bien. Mais j'essaie de rester le plus sécuritaire possible. Je suis un investisseur très, très plate pour certains quand ils regardent mes placements. Mais au moins, j'annule pas le futur de mes enfants par mes décisions. Puis c'est beaucoup moins stressant qu'un day trader comme toi qui, du jour au lendemain, peut perdre quelques centaines de dollars, puis peut-être même quelques milliers de dollars. Là, tu dois vivre avec tes émotions chaque jour.
Oui, absolument. Puis, tu sais, pour jouer, tu as raison. Tu sais, je vais comme rephraser dans le sens que, tu sais, si c'est pas quelque chose qui est important dans le fond, ton revenu total, c'est correct. Puis, pour apprendre aussi. Mais quand tu dois vivre du trading, c'est vraiment comme un sport de performance.
Ouais.
Puis, quand c'est un sport de performance, tu dois être discipliné, tu dois être rigoureux, tu dois avoir des règles. Et ça, j'avais pas du tout ça parce que tu dois te protéger. Parce que ton pire ennemi, dans le fond, Yannick, c'est toi-même. Puis, j'ai réalisé que moi, quand j'aurais ma propre argent, mais j'étais poche.
Mais t'avais-tu des mentors, Michel Villa? T'avais-tu quelqu'un dans ton entourage ou quelqu'un que tu suivais? T'sais, moi, j'ai lu quelques livres sur la bourse qui m'ont intéressé. C'est pas des gens que je connaissais, c'était plus des Américains qui avaient de grandes fortunes puis leur façon de voir les choses et tout ça. Mais toi, t'avais-tu quelqu'un où tu voulais en faire un travail, tu voulais être un day trader? T'avais-tu quelqu'un qui t'appuyait dans tes démarches puis qui te disait, ben, regarde, Michel Villa, tu devrais regarder telle affaire? Ou tu t'es dit, tiens, je vais apprendre tout de moi-même tout en m'auto-formant avec justement des livres, puis peut-être des podcasts.
C'est un excellent point parce que ce qui arrivait à l'époque au Québec, on misait beaucoup sur l'investissement boursier, mais au niveau du savoir, les stratégies d'investissement, comment tu fais pour trouver des bonnes compagnies. Mais on n'avait pas vraiment d'ouvrage sur comment bien te comporter à la bourse. Donc, je l'ai vraiment appris à la dure. C'est plus en fin de parcours, avant que je me fasse congédier de la Banque Laurentienne, que j'ai trouvé Mike Bellafiore de SMB Capital, qui est une firme de trading aux États-Unis. Puis là, il est devenu mon mentor une couple de mois. C'est là qu'il m'a fait prendre conscience que c'était vraiment un jeu par rapport à ma gestion des émotions. Mais malheureusement, Yannick, je n'étais pas capable de trouver, dans le fond, le penchant de Mike Bellafiore au Québec parce que ce n'était pas un aspect vraiment important de tenir compte de la psychologie dans le domaine de l'investissement boursier dans les années 2012-2015, mettons.
OK. Est-ce que quand tu fais ton analyse, est-ce que tu regardes les graphiques puis tu calcules toutes tes affaires? Est-ce que bon, ça peut peut-être descendre, mais regarde, il va peut-être avoir une troisième pointe. Ça va être là vraiment que je vais sortir parce que je sais que ça va descendre par la suite. Ou tu es quelqu'un qui va regarder, je sais pas, pour ne pas les nommer, là, je veux pas faire de publicité, mais tiens, mettons Couche-Tard, qui est une belle entreprise québécoise, qui est un fleuron québécois. Moi, au début, quand Couche-Tard est arrivé à la bourse, j'ai tout de suite acheté des actions. C'était quelque chose qui était palpable pour moi. Quand je rentrais dans un Couche-Tard, ben je voyais le produit, puis je me disais, OK, ben ça, ce modèle-là peut être reproduit partout dans le monde. Puis M. Bouchard, c'est un homme d'affaires extraordinaire. Bon, des fois, il paye les employés peut-être un peu moins cher que j'aimerais que les employés soient payés, mais c'est un homme d'affaires extraordinaire, puis il veut développer le produit. Fait que Couche-Tard me donnait une confiance, puis j'ai investi là-dedans. Monsieur Jean Coutu, qui me donnait confiance aussi avec les pharmacies Jean Coutu, je me suis dit, tiens, je fais confiance à cet homme-là, je vais investir là-dedans parce que c'était palpable. Je pouvais rentrer dans un Jean Coutu, puis voir le développement, puis voir que c'était pas à l'abandon. T'es-tu quelqu'un qui analyse plus les graphiques ou t'es quelqu'un qui va aller voir, mettons, je sais pas moi, l'année financière de l'entreprise, puis c'est quoi les projections et tout ça?
Bien, avant de répondre, on va faire la distinction entre investisseur et négociateur actif. Investisseur va utiliser davantage sur ce que tu parles, qui est l'approche fondamentale. On va analyser ce qui se passe dans l'économie, les secteurs d'activité, puis la compagnie, puis ton analyse technique, et on utilise plus, dans le fond, des graphiques, des indicateurs mathématiques. Donc, quand tu regardes l'analyse fondamentale, c'est plus du long terme versus l'analyse technique qui est plus court terme. Donc, pour un trader, négociateur actif, les outils d'analyse technique, graphique, vont être beaucoup plus utiles parce que ton horizon de placement n'est pas le même. Donc, quand tu regardes un day trader, tu dois ouvrir tes positions, mettons, à 9h30, mais tu es ferme à 4h. Tu n'as pas de position le soir. Tandis que toi, Yannick, ben, tu aimes coucher tard. Quand tu l'as acheté, ton intention, c'est de garder l'investissement
Exact.
à long terme. Puis l'autre affaire qui est vraiment intéressante dans ce que tu parlais, c'est le biais de familiarité. Donc, on a tendance à investir dans des compagnies qu'on connaît. Donc, tu as mentionné Couche-Tard, Jean Coutu, mais l'engouement qu'on voit dans les marchés présentement, ben, c'est Tesla, c'est Apple, c'est Amazon. Et pour certaines personnes, c'est Nvidia parce qu'on utilise ChatGPT, par exemple. Donc, ça, c'est important de faire attention que oui, on peut investir dans des compagnies qu'on connaît, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être des produits gagnants parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, j'utilisais un BlackBerry avec mes Switch in Motion. Aujourd'hui, ce n'est plus l'action aussi dominante qu'elle a déjà été dans le passé.
Ouais, il y avait les téléphones aussi, la compagnie de téléphone qui avait crashé là, il y a de ça plusieurs années. Ça avait été un scandale. On se demandait où était passé l'argent. Puis, tu sais, on peut perdre de l'argent rapidement en bourse, là. Puis, bon, perdre de l'argent, c'est sûr que cet argent-là va aller quelque part. On l'a perdu de nos poches, mais elle est partie ailleurs. Je lisais un livre, je me rappelle pas de l'auteur, mais j'avais vu une statistique intéressante. C'était 90% des day traders n'étaient pas capables de battre, mettons, le SP500. T'es-tu d'accord avec ce pourcentage-là? C'est 90% des gens qui sont pas aussi bons que le SP500?
Bien, tu as comme deux statistiques dans une, OK? C'est 85% des gestionnaires de portefeuille, c'est une période de 10 ans et plus, qui ne donnent pas un rendement supérieur au S&P 500. Puis tu as 90% des négociateurs actifs qui n'arrivent pas à vivre du trading.
OK.
Donc, pour le S&P 500, c'est vrai. OK? Tu as une poignée de gestionnaires de portefeuille sur le long terme qui va mieux faire. Puis la raison pourquoi, c'est que chaque action à l'intérieur du S&P 500 a un poids. Plus que l'action grimpe, plus important va être son poids. Ce qui arrive, c'est que la performance est concentrée sur une poignée de titres. Et si tu n'as pas ces actions-là, tu es dans le trou. Donc, l'année passée, tu as donné une idée, environ 80% de la performance du marché venait du magnifique 7. T'sais, Tesla, Amazon, Nvidia, Apple et Microsoft. Donc, si tu n'es pas investi là-dedans, autant que dans l'indice, qui représente environ 30%, c'est difficile de battre l'indice. D'un autre côté, la négociation active, 90% des gens ne parviennent pas à vivre du trading. Mais c'est un peu comme dans n'importe quoi. Si tu prends tous les musiciens qui tentent de percer, tous les entrepreneurs qui essayent de gagner leur place, ou tous les gens qui rêvent à la radio comme toi, c'est seulement une poignée de gens qui vont être capables de réussir à long terme. Donc, c'est comme des statistiques normales dans les deux cas, dans le sens que c'est toujours la crème qui remonte à la surface. C'est extrêmement difficile. Puis ça s'explique aussi en partie parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Tu sais, toi puis moi, Yannick, on peut partir de notre compagnie, puis commencer à acheter des actions avec nos permis, etc. Est-ce qu'on va connaître du succès? Je ne sais pas, mais ça ne coûterait pas nécessairement si cher que ça à essayer. Donc, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
Ouais. Est-ce que là, tu vas voir quel genre d'investisseur je suis. Tu vas dire, oh, finalement, je pensais qu'il était plus excitant que ça comme animateur. Mais quand j'avais vu cette statistique-là, moi, j'avais lu 90% des gens qui n'étaient pas capables de battre le S&P 500. Je me suis dit, ben tiens, je vais prendre un produit qui copie le S&P 500. Puis ça a été mon premier réflexe. J'ai pas tout mis mes œufs là-dedans, mais j'ai mis une bonne partie de ce que je prends pour jouer à la bourse. Je l'ai mis là-dessus. Puis jusqu'à maintenant, c'est profitable. Puis je touche à rien. Je laisse ça monter année après année, ça monte, puis ça fait mon bonheur. Est-ce que pour un investisseur qui veut investir une fois de temps en temps pour s'amuser, est-ce que c'est une bonne stratégie de copier le SP500, d'acheter un produit comme le SP500?
Je te dirais oui, puis c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Warren Buffett. Tu sais, Warren Buffett, c'est le plus grand investisseur des temps modernes, puis il disait, moi, à mon décès, là, dans mon testament, 90% de la fortune va aller dans un fonds négocié en bourse. Donc, un fonds négocié en bourse, c'est quoi? Ça réplique la performance d'un indice de référence comme le S&P 500. Donc, c'est une très bonne façon d'être investi à la bourse, d'avoir une certaine diversification, qui est le concept de ne pas avoir les œufs dans le même panier. Parce que le problème, Yannick, on a fait une analyse de 40 000 comptes de courtage d'investisseurs autonomes, c'est-à-dire des gens qui gèrent leurs placements. Puis la moyenne de titres à l'intérieur de ces portefeuilles-là, c'était 4. Donc, tu n'es pas vraiment bien diversifié.
Exact.
Si par hasard, tu pinces un Nortel, puis tu es, mettons, investi à 50% là-dedans, en 2000, ça ne fait pas vraiment des bons placements à long terme. Donc,
Exact.
l'arrêt du pouce, quand tu commences en investissement, ton premier 25 000 $, place-les dans des fonds négociés en bourse si tu veux t'occuper de tes affaires. Et par la suite, tu pourras ajouter des actions. Ça, si tu es un investisseur autonome. Sinon, tu peux faire affaire avec un conseiller en placement qui va s'occuper, dans le fond, de faire une répartition. De choisir des fonds communs de placement ou des titres pour toi, puis aussi tu vas bénéficier de la planification financière. Donc, ça, c'est un aspect qu'on oublie tout le temps, là. La fiscalité, hypothèque, assurance, as-tu un testament, as-tu un budget, etc. Donc, souvent, on pense en rendement à la bourse, hey, j'ai fait 12 %, mais est-ce que tu es capable de maximiser ça en mettant, mettons, les bons placements dans des bons comptes, sauver de l'impôt, par exemple? Donc, c'est vraiment la combinaison de gestion de portefeuille et planification financière qu'un conseiller peut t'amener, c'est ce qu'on appelle la gestion de patrimoine.
Ouais, je parlais avec un de mes amis qui est day trader, puis lui, il fait exactement comme toi, c'est qu'il forme des gens à la bourse. Et
Oui.
il me disait que des fois, il pogne des jeunes maintenant. Tu sais, avant, il y avait des personnes un peu plus avec un peu plus d'expérience de vie, des 40, 50, 60 ans. Là, très jeunes, du 18, 19, 20 ans, qui prennent des cours pour devenir day trader. Puis il dit, ben, tu sais, au début, ça va super bien, ils sont hyper excités, mais à partir du moment où ils font une bonne somme d'argent, ils la retirent, puis ils s'en vont la dépenser parce qu'ils ont l'impression que demain, ce sera la même affaire. Ils vont recevoir des milliers de dollars qui tombent du ciel. La réalité, c'est pas ça, là. Puis tu as dû faire face à cette réalité-là, tu sais. Un jour, ça va super bien. Les deux jours suivants, ouf, c'est un cauchemar. T'sais, tu te remets constamment en doute, tu es constamment dans le doute, tu es constamment dans l'analyse. Ce que Gaëtan me disait, c'est, Yann, faut leur dire au départ que les bonnes journées, c'est important de les célébrer, mais il faut toujours faire attention parce qu'il va y avoir des mauvaises journées aussi.
Ah, j'adore. OK? C'est la différence entre intensité et constance. Donc, on est dans une société que l'intensité, ça prime. T'sais, si tu vas sur les réseaux sociaux, puis je fais une publication, je vais regarder mon nombre de likes. Puis là, ça va être ma métrique de performance. Mais est-ce que ça, c'est mieux d'avoir, mettons, une grosse publication qui fonctionne ou d'écrire sur une longue période de temps? Donc, souvent à la bourse, c'est beaucoup plus important d'être investi sur le long terme. Ce qu'on appelle time in the market, que timing in the market. Puis le timing, ça fait que des fois, tu vas avoir des bonnes journées puis des moins bonnes journées. Puis le phénomène que tu parles, on l'a vu depuis 2020. Quand les gens étaient à la maison, il n'y avait pas grand-chose à faire. comme on dit à la blague, le seul casino d'ouvert, c'était la bourse. Donc, le pourcentage de jeunes qui sont intéressés à la bourse a grimpé, ce qui est une bonne nouvelle.
Ah, ben c'est ça, OK. C'est de là que
Puis,
ça
tu as eu
vient.
l'effet aussi des crypto-monnaies. Donc, les crypto-monnaies, là, ça faisait que ça montait beaucoup. Donc, il y avait beaucoup d'intérêt de jeunes par rapport à la bourse et aux crypto-monnaies. Il y avait des bons rendements qui ont été faits en 2020 puis 2021. Et là, après ça, on tombe dans ce qu'on appelle la loi des petits nombres. La loi des petits nombres, c'est quoi? C'est que tu vas calculer ta performance sur un petit échantillon de données. Puis là, toi, tu vas dire, ça y est, j'ai fait 20% de rendement sur 2 semaines. Je vais extrapoler ça dans le futur. C'est comme je disais à la blague, je ne sais pas si tu viens dans le temps, mais Ginette Reno, elle se faisait inviter pour aller chanter au Centre Bell. Puis là, il y avait une statistique qui disait, à chaque fois que Ginette chante au Centre Bell, le Canadien gagne. Mais ça arrivait genre 3-4 fois. Donc ça, c'est un exemple de la loi des petits nombres. En disant, bien, à cause que Ginette chante, le Canadien va gagner. Mais ce n'est pas vrai, parce que si tu la mets au Centre Bell 41 fois, bien, les Canadiens ne gagneront pas 38 parties. Donc, la loi des petits nombres, c'est vraiment tomber dans le piège de dire, à cause que j'ai une performance à court terme, ça va nécessairement se refléter à long terme. Il faut comprendre, Yannick, la différence entre la chance et l'habileté. Puis, à très court terme, n'importe qui peut être chanceux. Puis, je vais faire une anecdote. Le Wall Street Journal a voulu faire une analyse de performance des gestionnaires de portefeuille en les comparant avec des journalistes qui tirent des dards là, sur le mur pour choisir des titres. Parce qu'ils voulaient faire ça parce qu'à la base, ils voulaient inviter des singes, mais ça coûtait trop cher l'assurance. Donc, les journalistes ont tiré des dards pour choisir des titres en portefeuille. Puis finalement, la performance était comparable sur une période d'1 an. Donc, à très court terme, tu peux être très chanceux, très bon, mais ce qui est difficile, c'est de le répliquer sur une longue période de temps, d'où la constance versus intensité.
OK, mais c'est ça, c'est les jeunes qui ont commencé à s'intéresser à la bourse et aux crypto-monnaies en 2020-2021. Je ne savais pas pourquoi les jeunes, je me disais, ben, ils sont plus à leur affaire que notre génération, mais il s'est passé peut-être quelque chose. Ben, en fait, je pense qu'il s'est passé quelque chose pour que les jeunes soient poignés à la maison et se disent, bon, ben, à quoi je vais occuper mon temps? Pour un gars comme toi qui avait de l'expérience en bourse, quand tu as vu les crypto-monnaies arriver, ça a pris combien de temps avant que tu prennes la peine de regarder ce que c'était vraiment que les crypto-monnaies? Monnaie, parce qu'au départ, c'était une bête qui était gérée un peu bizarroïde. On se disait, mais qui est derrière ça? C'est-tu la mafia? C'est-tu les motards? Finalement, on s'est aperçu que certains produits de la crypto-monnaie pouvaient être exceptionnels, Bitcoin pour ne pas le nommer, mais au niveau de la façon dont c'était régi, c'était encore très flou au départ. Ça a pris combien de temps avant que toi, tu te dises, ah, ben moi, Michel Villa, je sais comment ça fonctionne la bourse, je suis capable de l'analyser, je fais des placements, c'est mon métier. Là, je vais investir en crypto-monnaie. Ça t'a pris combien de temps? Puis tu trouvais ça dur au départ de jouer avec une bête qu'on connaît pas nécessairement?
Ben, écoute, je ne joue pas cette bête-là.
Ah,
Tu sais, dans
OK.
le fond, Yannick, je vais te dire d'entrée de jeu, je ne suis pas un spécialiste de crypto-monnaie, mais ce que je peux dire, c'est que depuis janvier, il y a des fonds négociés en bourse qui donnent la chance d'avoir une exposition au Bitcoin. Puis je te dirais que ça change la donne. Mais je te dirais que le point déclencheur pour répondre à ta question, c'était en novembre 2022. Je ne sais pas si tu te souviens, là, mais il y avait une compagnie qui a fait faillite. Et le gars, d'ailleurs, la semaine passée, là, il a appris qu'il allait avoir une peine d'emprisonnement, je pense, de mémoire de 25 ans, qui s'appelle SBF. Donc, c'est la compagnie FTX. Donc, à partir de ce moment-là, il faut comprendre que Bitcoin était monté jusqu'à pratiquement 70 000. Et là, il est allé à 15 000. Et là, on a eu ce scandale-là. Donc, évidemment, les crypto-monnaies, ben là, c'était un peu, comme on dit en bon français, le Far West, parce que tu avais des milliers de crypto-monnaies disponibles. Et là, les gens se plaignaient qu'il manquait un peu de réglementation. Et là, suite à cet événement-là, on a commencé à poursuivre certaines personnes. Et pour le long terme, c'est une bonne chose de faire un certain nettoyage. Ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été écorchés au
Ben oui.
passage. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on tente, dans le fond, de réglementer un petit peu. Et là, l'arrivée des fonds négociés en bourse aide beaucoup. Mais je le répète, Yannick, je ne suis pas un spécialiste de la question, donc je n'ai pas vraiment d'opinion par rapport à ça. C'est comme dans n'importe quel instrument financier, quand tu l'achètes, tu dois être conscient des risques associés à ça. Puis je dis aux gens de faire leur devoir avant d'acheter Une crypto-monnaie, mais même chose pour une action aussi, là.
Ouais.
C'est le
C'est
même
parce
principe.
qu'en bourse, on peut voir les mouvements et tout ça. Crypto-monnaie, on ne connaît pas les baleines. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont décider de cacher leur truc. Donc, moi, je trouve ça tout le temps litigieux. Pour moi, du moins, qui essaie de rester le plus loin possible de la crypto-monnaie parce que je ne suis pas capable de contrôler la bête. Tu sais, j'en achète un peu quand ça descend. T'sais, je prends les trucs à Warren Buffett, là. Lui avait donné l'exemple, quand tu vas à la pharmacie, tu vas acheter plus de papier de toilette parce qu'il est en rabais. Ben, c'est à peu près la même affaire avec la bourse. Moi, je l'applique aux crypto-monnaies. Donc, quand le Bitcoin descend, puis je vois que c'est une bonne chute, ben là, j'en rachète un petit peu. J'attends que ça monte. Puis à partir du moment où je juge que ça a assez monté, ben là, je retire mes affaires. Tu sais, j'étais un peu pépère comme gars, mais les bitcoins, on dirait que, tu sais, autant que je sais que Couche-Tard va être là dans 50 ans, autant que les bitcoins, je me pose toujours des questions, tu sais, qui est derrière ça? Les baleines vont décider de prendre leur avoir quand, puis ça va faire tomber le bitcoin. Mais, tu sais, j'en ai pas bien, ben, là, écoute, je vois que ça a monté depuis un an, fait que c'est quand même pas si pire. J'ai une bonne performance au niveau des bitcoins, là. Mais c'est ça, j'ai
C'est
fait
vraiment
exact.
très drôle.
Mais j'ai fait exactement ce que tu m'as dit, parce que là, j'ai du Bitcoin,
Ouais.
mais j'ai pris le Purpose Bitcoin, je pense, c'est un ETF.
OK.
Puis c'est ça, je pense que j'avais acheté ça à 11$ dans le top, puis il est rendu à 13$. J'ai pas touché, là. Fait que c'est correct.
On m'avait posé la question lors des conférences avec Desjardins l'année passée par rapport là, au Bitcoin. Puis évidemment, je n'avais pas vraiment d'opinion, mais ce que je disais, c'est que en 2022 puis 2023, Yannick, il y avait toutes les raisons du monde pour l'amener à zéro. Tu sais, il y avait une crise de confiance incroyable.
Ouais.
Un principe à la bourse, que si toutes les raisons pour qu'un actif financier va à zéro puis qu'il ne va pas, c'est positif. Ça peut paraître drôle, là, ce que je te dis, là, mais tu sais, ça veut dire qu'à quelque part, il y avait une demande qui était vraiment forte pour le produit. Puis le Bitcoin, tu sais, des fois, on peut comprendre comment ça fonctionne, mais au final, ça demeure l'équation de demande versus offre.
Ouais.
Il y a plus de demandes que d'offres. Donc, des fois, de se casser la tête de qu'est-ce qui explique le mouvement, ben, il faut revenir à la base. Puis le Bitcoin, c'est, dans le fond, le véhicule financier par excellence qui démontre cette relation-là de demande versus offre.
Les formations que tu offres en bourse, est-ce que c'est pour celui qui débute, celui qui commence à s'intéresser à la bourse, ou c'est pour les gars comme moi qui suivent ça depuis quelques années, qui investissent? De mon côté, c'est vraiment investir en pépère, là. Ça peut-tu m'intéresser, ce genre de cours boursier-là? Puis pour ce qui est de ceux qui veulent être des experts, ceux qui veulent être des day traders, les cours que tu offres, ça peut-tu s'appliquer aussi?
Écoute, je te dirais que, tu sais, moi, je ne vends pas de cours aux particuliers. Donc, tu sais, si quelqu'un fait une recherche, Michel Villa, c'est quand son prochain cours, j'en donne pas. Moi, je donne la formation, Yannick, pour des institutions financières. Puis mon créneau, c'est le comportement humain à la bourse. Donc, mon objectif, c'est de sensibiliser que dans le quotidien, tu fais face à des biais cognitifs, qui sont des erreurs de jugement. Donc, tantôt, je te donnais l'exemple de biais de familiarité. Je t'ai parlé de la loi du petit nombre. Ça, c'est des exemples, dans le fond, pour t'aider à prendre de bonnes décisions. Donc, je m'adresse autant à l'investisseur à long terme qu'au négociateur actif, mais sur la trame de fond de la psychologie en investissement, la gestion des émotions et la prise de décision. Puis mes clients, ça va être, mettons, Desjardins, la Banque Royale, gestionnaire d'actifs Bridgehouse. Donc, je ne fais pas affaire un à un avec le particulier. C'est les institutions financières qui m'engagent pour aller donner des conférences, des ateliers, des formations. Donc, tout le monde peut suivre, dans le fond, un atelier avec moi, mais ça va être dispensé par une institution financière.
OK, je trouve ça intéressant. Puis ils peuvent communiquer avec toi sur michelvilla.com.
Oui, ben oui, c'est un problème.
OK. Michel Villa, on va faire une courte pause si tu le veux bien. Je vous rappelle que vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. J'ai le plaisir d'avoir le chroniqueur, conférencier et formateur boursier Michel Villa avec moi. Il va être avec nous autres après la pause. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, 418-971-1021, on vient.
Marceau, le soir.
Ce soir, dans Mars au soir, j'ai le plaisir de recevoir Michel Villa. Michel Villa, qui a plusieurs chapeaux. Il est auteur de livres, chroniqueur, conférencier, formateur boursier pour des entreprises comme Desjardins, qu'on a nommé tout à l'heure. Michel, c'est un plaisir de te rencontrer ce soir. Sincèrement, t'es franchement très, très, très sympathique. On a parlé pendant la pause, puis je me suis dit, hey, c'est un bon gars, ça, Michel Villa. Donc, michelvilla.com pour les gens qui veulent en savoir plus. Hey, pendant la pause, quand on jasait, j'ai pensé au film, au fameux film de Leonardo DiCaprio, Le Loup de Wall Street, qui est un film qui nous a fait halluciner. On parlait de luxure tout à l'heure, les gens qui font énormément d'argent rapidement puis qui décident de tout dépenser. Le Loup de Wall Street, c'est un arnaqueur, on le sait. Mais y a-tu des gens dans la vie qui perçoivent la bourse comme Leonardo DiCaprio dans le film Le Loup de Wall Street, des gens qui ont l'impression qu'ils vont faire fortune du jour au lendemain, puis let's go, on s'achète un bateau, une maison, un château?
Tu sais, je te pose la question, pourquoi pas? Comme je le mentionnais avant la pause, il n'y a pas de barrière à l'entrée. N'importe qui peut arriver puis ouvrir un compte de courtage puis te frapper un coup de circuit. Puis quand tu arrives dans une situation où les marchés boursiers ont très bien performé comme en 2020 puis 2021, puis tu connais quelqu'un dans ton entourage qui flash des belles performances sur les réseaux sociaux, puis toi, tu te dis, ce gars-là ou cette fille-là, pas plus intelligente que moi aussi, je suis capable. Donc, c'est comme à quelque sorte, pour certaines personnes, une certaine porte de sortie, de dire, moi, je me cherche un revenu d'appoint ou changer de carrière, ou simplement, c'est leur rêve ultime de dire, regarde, ça en prend juste une bonne transaction. Tu sais, si je pince la bonne action, puis je fais l'argent avec ça, je vais peut-être vivre de mes rêves. Donc, le fait que tu n'as pas de barrière à l'entrée, que le facteur chance est très présent à très court terme, tout le monde peut croire à l'idée d'aller chercher une grosse boulette. C'est ça qui fait que c'est vraiment intéressant. D'où l'importance de porter une attention au comportement humain parce que ça joue beaucoup dans les mouvements de foule, par exemple.
Ouais, et puis c'est important de rappeler aussi qu'on fait un coup de circuit. Je ne sais pas, moi, est-ce que ça peut être un coup de circuit pour toi, mais mettons, moi, très rapidement, je fais 10 000 $ puis je décide de retirer tout cet argent-là. Le gouvernement va cogner à ma porte et le Canada va cogner à ma porte. Ils vont dire... Tu nous dois une partie, mon ami. C'est des gains que tu as fait.
Oui, un gain capital, effectivement. Juste pour les gens qui sont intéressés, là, mettons, tu fais un gain de 10 000, tu as la moitié du gain que tu gardes, puis l'autre moitié va être imposée. Donc, évidemment, ça devient super intéressant. Mais tu entends tellement d'histoires, puis je ne sais pas, Yannick, si tu te souviens de l'histoire de GameStop.
Ben oui, bien sûr, qui a été moussé sur Reddit.
Oui, c'est ça. Donc, l'action est passée, imagine, de 5 $ à 500. Puis là, le mouvement que tu as eu, c'était justement une armée de jeunes traders qui se mettaient ensemble pour faire beaucoup d'argent. Puis je te dirais qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait de l'argent aux États-Unis par rapport à ça. Donc, quand tu arrives sur les réseaux sociaux et que tu vois ça, tu as le goût de le faire. Donc, c'est le concept de preuve sociale. Hein. Tu sais, dans un contexte d'incertitude, tu vas aller chercher de l'information auprès des gens. Si je te demande, Yannick, écoute, je m'en vais à Québec, as-tu un bon restaurant? Bien, tu vas me le dire. Puis Amazon, quand je vais être sur Amazon, puis il sait qu'est-ce que j'ai lu dans les dernières semaines, il va me proposer de quoi. Ouais. Donc, la preuve sociale, c'est se fier aux autres. Et quand tu vois l'action qui monte, puis les gens qui font de l'argent, toi aussi, tu as le goût d'embarquer là-dedans. C'est ce qu'on appelle le FOMO, la peur de rater une occasion. Donc, tu as le goût toi aussi d'être du party comme dans le Loup de Wall Street.
Okay. Puis ça, ça peut être négatif, ça, d'être attiré comme ça par ce type de mouvement-là? Parce que quand c'est au début, tu dis, OK, ben j'achète, puis là, nécessairement, je vais faire énormément d'argent, mais tu ne sais jamais si tu es dans le haut de la vague, puis à un moment donné, ça va descendre. T'sais, si tu achètes dans le haut de la vague, tu dis, hey, ça va monter encore, finalement, ça descend, c'est un peu moins intéressant.
Tu sais, ça se joue, comme on dit, si on utilise le terme jouer, là, même si tu disais tantôt que j'avais des réserves par rapport à ça, c'est un peu comme la chaise musicale. Tant si longtemps que la musique, elle joue, c'est le fun. Faut que tu trouves ta chaise quand la musique arrête. Donc, ce que je dis aux gens, si tu as le goût d'embarquer dans une vague haussière, ce qu'on appelle une bulle spéculative, j'ai pas de problème avec ça. Mais il faut que tu ailles déjà d'avance décider, Yannick, quand tu sors. Faut pas que ça te voie décidé par ce qui se passe parce que tu vas toujours vouloir le garder, ton actif. Mais si tu dis, par exemple, écoute, ben là, GameStop, il est à 100 $ il y a beaucoup de pression pour que l'action monte, je vais en acheter un petit peu, puis je m'en sors un petit peu à 125, je m'en sors un petit peu à 150, puis je liquide à 200, c'est super. Tu comprends? Tu as déjà un plan de match.
Ouais,
C'est
tu
le
prends
même
tes
principe
décisions.
que si tu achètes l'action à 100 puis tu dis, garde, si elle va à 85, là, je la sors.
Ouais. Mais tu
C'est le
prends
même
des...
principe. Donc, tu te protèges à la hausse, mais à la baisse. Puis quand tu vends, Yannick, là, tu ne regardes pas l'actif après.
Non, c'est ça, exact. Mais
C'est
moi,
dur.
j'adore ça, Michel Villa, tu sais, que tu te donnes un plan au départ, que tu te dis, bon,
Oui.
ben, j'embarque là, je vais vendre un petit peu là, un petit peu là, puis un petit peu là, puis rendu à 200, pouf, je vends tout, puis je regarde plus l'action après. J'ai fait l'argent que je désirais faire. Parfois, ça doit être cruel de voir ton action monter, puis de te dire, ouais, elle va peut-être monter encore. Mais il faut que tu te respectes en tant qu'individu puis que tu te dises non, 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 regarde, mon argent est fait, là. Faut pas que j'en veuille trop parce que ça se peut qu'à un moment donné, je perde de tout. Puis ça doit être une tragédie là, quand tu perds tout. Il n'y a pas personne qui veut perdre de l'argent. En tout cas, moi, j'en connais pas ben ben. Fait que oui, j'adore le plan de match que tu proposes. J'avais d'autres choses à jaser avec toi. Tu es aussi auteur de livres, toi?
J'ai écrit un livre qui s'appelle Pile et face, combiner raison et émotion pour réussir en bourse. Ça a paru en 2019. Donc, l'objectif, c'est
Ouais.
vraiment de présenter des notions de base en investissement.
Mais au départ, le titre de ce livre-là, c'était pas supposé d'être pile ou face.
Non, justement, c'est ça le jeu de mots, c'est pile et face. Parce que, tu sais, à la bourse, Yannick, là, tu as deux facettes importantes. Tu as le savoir, l'acquisition des connaissances, puis tu as le savoir-être, comment tu te comportes. C'est comme une pièce de monnaie. Tu as le côté pile et face. Et à la bourse, pour connaître du succès, ça te prend le savoir et le savoir-être. Mais à chaque semaine, il y a quelqu'un qui te dit « Hey, ton livre, pile ou face? » Non, non, c'est pile et
Ouais,
face.
mais c'est un jeu de mots. Ouais. Puis en
Oh,
plus,
oui, absolument.
tu le mets en plus sur ta page, tu sais, sur la première page. C'est pile ou face. Là, t'as mis une barre rouge sur le ou, puis t'as rajouté un et, parce que tu veux vraiment que le et soit présent. Puis il veut être, il est là pour une raison. C'est très concret, là.
Tout à fait. Donc, c'est vraiment des principes de base à la bourse pour le savoir, puis des trucs, dans le fond, pour aider les gens à prendre de meilleures décisions financières. Donc, c'est ça un peu l'objectif du livre.
Okay. C'est un livre d'à peu près combien de pages?
Écoute, ça se lit bien, là. Je te dirais 175 pages. On m'a dit que ça se lit en 3 heures. Puis c'est écrit à la formule blog, Yannick, dans le sens que, tu sais, chaque chapitre est très court. Donc, tu peux le prendre bouchée par bouchée. Puis, c'est vraiment d'y aller en ligne droite. Donc, si je ne tombe pas vraiment dans la grosse explication qui finit plus, j'essaye de faire quelque chose qui est concis, puis quelque chose que tu vas être capable de te référer dans le futur, parce que ça demande peut-être quelques relectures, tout dépendamment de ta température émotionnelle.
Et plus
Tu sais, des
gros.
fois, tu es vraiment hot, comme on dit, ou chaud, puis tu as le goût de prendre de grosses décisions spéculatives. Voler mon livre, ou des fois c'est le contraire, tu es comme à terre, tu as besoin de regagner confiance, voler mon livre. Donc, tout dépendamment de ta température, comme je disais, émotionnelle, ben, tu vas l'utiliser à bon escient.
Ouais. Dans ta carrière à toi, là, tu fais des placements, tes propres placements. Est-ce que tu as rencontré des obstacles que tu t'es dit, garde ça, il faut que je raconte ce type d'obstacle-là que j'ai rencontré pour être sûr, certain que les autres qui arrivent après moi ne rencontreront pas ce genre d'obstacle-là? Qu'est-ce qui a été marquant depuis le temps que tu fais du day trading?
Écoute, je vais te le compter, même si c'est gênant. Tu sais, quand je disais tantôt, des fois, d'avoir confiance en tes moyens, d'avoir ta propre méthodologie, ta propre approche. Quand tu perds confiance, ben, tu te fies à l'opinion des autres. Donc, on a un peu ce réflexe-là de dire qu'est-ce que pense X, Y, Z ou ABC. Puis, dans le fond, tu cèdes ton pouvoir décisionnel à ces gens-là. Donc, imagine-toi donc, Yannick, que je m'étais fié, tiens-toi bien, un astrologue indien pour prendre mes positions. Je suis tellement gêné de dire ça, puis je me suis tellement enfargé en suivant cette personne-là.
Ouais.
Donc, c'est un beau rappel de dire, gang, faites vos devoirs, apprenez, développez votre propre stratégie, y allez étape par étape, puis pratiquez-vous avant. Tu sais, on a une technologie qui est incroyable, qui te permet d'avoir des portefeuilles en mode virtuel. Donc, teste tes stratégies. Vas-y petit par petit, boucher, puis essaye pas de la sortir du parc, comme on dit. Puis c'est un mécanisme de création de richesse incroyable, la bourse, mais à long terme. Donc ça demeure d'être investi comme prérequis, c'est super important. Donc c'est un peu ça le message que je dis aux gens. Puis tu sais, comme tu disais tantôt, toi, tu as une portion qui est bien investie pour le long terme, puis tu as une autre portion où ce que tu t'amuses un peu plus. C'est super. Tu sais, si tu as envie de t'amuser, vas-y, mais vas-y pas avec un montant qui va te faire mal. C'est ce qu'on appelle le risque de ruine. Tu sais, c'est te ruiner, tu veux pas ça. Parce que c'est très traumatisant. Ça, c'est l'autre point que je voulais dire, Yannick, c'est que moi, j'ai essuyé de lourdes pertes, puis à un moment donné, j'ai perdu confiance. Un point qui, avant que Laurentienne m'ont congédié, donc, tu ne veux pas ça. Tu veux pas arriver à un point où tu es traumatisé, puis tu as peur. Donc là, par la suite, c'est tout de retravailler ça. Donc, c'est extrêmement difficile. Donc, on évite ça, gang, de vraiment tout perdre sur une ou deux transactions. Ça fait trop de
Ouais,
dommages.
est-ce qu'on est notre pire ennemi?
Absolument. Absolument. Écoute, c'est, tu sais, dans le fond, on sait tous qu'est-ce qu'on doit faire. T'sais, même chose comme je dois aller m'entraîner, je dois faire attention à ce que je mange, je dois me coucher tôt. Qu'est-ce qui fait que je ne le fais pas? Ben, c'est moi-même. T'sais, un autre sac de chips, une autre boisson, une autre émission sur Netflix, etc. Donc, il y a une différence entre avoir de l'information puis bien se comporter. Puis donner plus d'informations à quelqu'un, des fois, ça aide pas tant que ça. Donc, pour répondre à ta question, oui. Parce que, tu sais, quand tu y penses, le marché boursier, il grimpe à long terme. Parce que tant si longtemps que l'être humain, il est créatif, résilient, puis novateur, il va avoir la création de profits. Et ça fait que les marchés boursiers montent. Et ça, on le sait avec. Mais pourquoi que c'est aussi dur de demeurer investi, d'y aller plus avec une approche prépaire, comme tu dis? Ben, c'est notre côté plus explosif de dire, hey, je suis excité, j'ai envie de faire plus de transactions. Donc, décidément, là, c'est vraiment un facteur super important de la gestion de soi.
Hey, j'ai pogné sur un forum qui est disponible sur Facebook. Je me rappelle pas le forum, mais c'est un forum où je m'étais abonné. Puis il y avait quelqu'un qui avait posé une question qui m'a fourré moi, mais pas pire, là. Parce que j'avais pas la réponse. T'sais, moi, je suis un généraliste dans la vie. T'sais, je connais pas tout, mais je connais un petit peu d'affaires. T'sais. Puis là, je tombe sur cette question-là. Je me suis dit, voyons, moi, j'ai investi à la bourse depuis des années et des années. Puis je m'étais jamais posé cette question-là. Puis c'était une jeune fille, peut-être 20 ans, qui posait, a dit, l'argent qu'on perd à la bourse va où? Écoute, Michel, j'avais même pas la réponse.
Écoute, ben, premièrement, quand tu achètes ou tu vends à la bourse, ben, tu vas payer un frais de commission.
Oui.
Il y a certaines plateformes que c'est rendu à zéro, mais théoriquement, tu as ça. Puis derrière chaque transaction, Yannick, il y a un acheteur puis un vendeur.
C'est
Tout le temps,
ça.
tout le temps. Donc, si toi, mettons, tu achètes à 10, on va faire un exemple, ben, ça prend un vendeur à 10. Puis toi, mettons, tu déciderais de le vendre à 4, ben, la personne pourrait arriver puis de le racheter à 4. Tu comprends? Donc, le fait qu'il y a toujours un acheteur et un vendeur, c'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'est un jeu à somme nulle. Tu sais, dans le sens
Je
que tu as
comprends,
des gagnants puis tu as des perdants.
mais j'achète une action à 15 piastres. Cette
Oui.
action-là descend, OK? Puis là, quand je le revends à, mettons, à 3 piastres. Je suis perdant 12 piastres. Ce 12 piastres-là va où?
Ben, c'est que le 12 piastres, il est dans le fond, c'est toi qui l'as perdu. Mais
Exact.
il y a tellement d'interactions entre les acheteurs et vendeurs que là, je ne suis pas capable de définir exactement ton 12 piastres, comment il est découpé, parce que à la bourse, chaque acheteur et vendeur, c'est anonyme. Donc, j'ai aucune idée, mais toi, tu as perdu de l'argent.
Hey, je peux pas croire qu'à 20 ans, elle avait cette question-là, puis
Ben, c'est une super question.
je me suis dit.
C'est une super question,
Puis il y a
mais...
personne, Michel, il y a personne qui a répondu, là. C'est tous des gars puis des filles qui sont à la bourse, là. Il y a personne qui a répondu. Je me suis dit, c'est une question sans réponse, mais c'est une question que je me posais moi aussi, ben, que je me serais pas posée, mais que là, je me pose maintenant, tu sais.
Mais c'est
L'argent.
tellement difficile parce qu'il y a des millions d'investisseurs qui
Ben oui.
interagissent dans le quotidien. Donc, c'est extrêmement difficile de dire, hey, écoute, mon 12 piastres que j'ai perdu, il est allé où? Hey, écoute, c'est extrêmement difficile, mais tu sais, au final, quand tu vas regarder ton relevé de compte, tu as perdu 12 piastres,
C'est
toi.
ça, ouais.
C'est ça le plus important.
Ouais, mais des fois, je suis curieux de savoir qui est parti avec mon argent. Hey, je voulais parler avec toi des mouvements, que ce soit des mouvements mondiaux ou des mouvements sociaux. Tu sais, je veux pas parler de la pandémie nécessairement, mais pendant la pandémie, il y a un mouvement qui est parti. Je pense que c'est en Australie quand c'est parti. Les gens s'intéressaient curieusement au papier de toilette. Et là, je me dis, attends un peu, les gens s'intéressent au papier de toilette. Donc là, c'est en Australie, là, ça semble s'en venir aux États-Unis, ça semble s'en venir au Canada aussi, au Québec. Fait qu'il va y avoir plus de demandes, fait que les entreprises de papier de toilette vont faire plus de profits. C'était-tu une façon logique de réfléchir?
Ben oui, c'est tout le temps une question d'offre et de demande. Donc, le meilleur exemple que je vais te donner, parce que tu sais, le papier de toilette, les gens vont me dire, là, Michel, as-tu une compagnie de papier de toilette à me suggérer? Mais ce que je vais donner comme exemple, Yannick, c'est Zoom. Donc, quand tu es arrivé avec la pandémie, puis qu'on a appris qu'on serait devant nos écrans pendant X temps,
Sur Zoom.
une action qui a super bien performé, c'est Zoom Vidéo Communication.
Tu l'as-tu vu venir, ça?
Ben, c'est pas que je l'ai vu venir, c'est que le marché boursier avait déjà accéléré là-dessus.
Ah.
Tu sais, dans le sens que, tu sais, il n'y a pas, comme on dit en bon anglais, de free lunch. Tu sais, le marché boursier dans son ensemble est relativement intelligent. Donc, l'action, elle a commencé à accélérer, mais tu pouvais embarquer justement dans la vague. Une autre action, c'est Peloton. Les fameux, là, tu sais, vélos stationnaires où tu vas compétitionner avec d'autres gens. Mais
Ouais.
cette action-là, de mémoire, est partie de 35 $ à 180.
Et...
Donc, de cibler ce genre de contexte-là où c'est une demande qui peut être accrue, c'est une belle façon d'investir. Puis là, des fois, il ne faut pas que tu attendes d'être cute au niveau du prix. Tu te dis, OK, là, c'est déjà monté à la hausse. Est-ce que j'embarque? Ben non, je vais attendre qu'ils reviennent. Des fois, ils ne reviennent jamais. Donc, si tu avais, mettons, 2 000 $ à investir, comme on dit en bon français, plante-en un peu, là. Investis-en 1 000 $, puis attends, voir. Parce que le regret de ne pas embarquer dans quelque chose que tu as vu juste, ça vient d'être rattrapé. Puis juste une petite anecdote, dans les années 2000, à un moment donné, j'ai pris l'autobus avec un de mes chums de Montréal-Québec, puis j'avais dit, c'est quoi cette affaire-là? Ah, oh, c'est un iPod. Oui, ça, iPod, ben là, tu peux écouter de la musique, tout ça. Ah ouais, qui fait ça? Il dit Apple. Puis j'étais revenu justement à Hydro-Québec parler de l'action d'Apple. Je disais, hey, gang, on devrait analyser cette action-là. Il faut comprendre que l'action était moins haute qu'aujourd'hui, là. Tu sais, Steve Jobs, il avait quitté, puis il était revenu, puis je me souviens, là, je pense que l'action, Yannick, il avait comme doublé de 17 à 34, puis on s'est dit, ah, oh, trop tard. L'action a juste monté après. Donc, oui, tu peux jouer ces genres de mouvements de foule-là quand il y a des trames de fond pour des tendances. Puis là, je vais te dire, une des belles tendances qu'on a en ce moment, là, c'est tout le monde parle de ChatGPT, mais c'est le GLP-1. Je ne sais pas si c'est quoi, là. Je ne suis pas un spécialiste, mais c'est des médicaments pour la perte de poids. Donc, tu as des actions qui bénéficient de ça. Donc, tu vas prendre un médicament qui va t'aider à perdre entre 15 et 20 % de ton poids sur un nombre d'années. Évidemment, tu as des effets secondaires.
Ouais.
Et là, ça a beaucoup de momentum.
C'est ça. Mais là,
On est au début de ça, là, Yannick. On est au début de ça,
c'est
là.
ça. C'est important de mentionner que ce n'est pas une recommandation, c'est juste
Absolument.
une observation qu'on a. C'est que cette action-là, elle semble être très intéressante présentement.
Absolument. Bon point. Merci pour la mise en garde. Donc, tu sais, là, tu as le côté que les gens veulent jouer cette thématique-là.
Ouais.
Puis, tu as l'autre côté que toutes les compagnies qui offrent des collations, des chips, des barres de chocolat, quelque chose qui sont moins santé, mais un des effets du médicament, c'est que tu as moins le goût de manger ce genre de produit-là. Donc là, les gens ils disent, ben là, ces actions-là vont reculer. Donc, ces trappes de fonds-là sociales, je pense pour quelqu'un qui fait un peu de trading, de l'investissement, tu dois être à l'affût de tout ça. C'est important dans ton analyse.
Ouais. Puis, bon, on parlait des mouvements mondiaux, mais on peut parler aussi de la guerre, tu sais, les milliards et les milliards qui sont débloqués, exemple au Congrès américain pour l'Ukraine, puis l'Ukraine va faire de l'achat d'armes. Là, ça va profiter aux armuriers américains. Moi, de mon côté, je n'investirai pas là-dedans, bien entendu, j'ai mes propres raisons, mais ça aussi, c'est à surveiller, tu sais, les gens de Wall Street, là, les fameux loups de Wall Street, regardent ça avec une grande attention, tu sais, le Congrès va prendre quoi comme décision, qu'est-ce que l'Amérique va faire, qu'est-ce que le Canada va faire, l'Ukraine, ils vont acheter leurs armes où, de rester constamment alerte là-dessus, là.
Oui, ça, c'est un super de bon point. Dans un premier temps, tu as l'investissement responsable. L'investissement responsable, comme tu disais, c'est que les gens vont donner certains critères puis vont dire, moi, là, l'armement, je n'investis pas là-dedans. Donc, ça, c'est correct, ça fait partie de tes valeurs. Mais pour ceux et celles qui veulent aller chercher du rendement, mais là, c'est quoi la conséquence de ça? Donc, il y a le principe qu'on pense au premier degré. Ça, c'est une relation de cause et effet. S'il y a une guerre qui est déclenchée en Ukraine, qu'est-ce qui arrive? Le pétrole va monter. Ça, c'est de penser au premier degré. Tu as un événement, puis tu as une relation cause et effet qui s'installe, tu as une conséquence. Penser au deuxième degré, Yannick, c'est de dire, OK, mais c'est quoi les répercussions de ça dans le futur? Ben là, moi, je ne savais pas, là, il faudra que je vérifie, mais je pense que l'Allemagne n'avait pas le droit d'avoir d'armée suite à la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, suite à cet événement-là, ils vont dire, écoute, demain matin, je peux me faire envahir, moi, là. Donc là, ils vont peut-être commencer à dépenser au niveau de l'armement. Donc, c'est quoi les conséquences de cette guerre-là? Ben là, tu peux jouer par rapport à cette thématique-là. Puis une des raisons pourquoi les Américains jouent avec un peu l'OTAN par rapport à la situation en Ukraine, puis là, je ne suis pas un spécialiste, là, c'est vraiment de lancer un message pour pas que la Chine envahisse Taïwan. Parce que ça, c'était quelque chose qui est très probable aussi. Donc, c'est quoi les conséquences de ça pour te dire, ben moi, je veux-tu investir, tu sais, au Moyen-Orient, pas au Moyen-Orient, excuse-moi, en Asie? Est-ce que le marché taïwanais deviendrait intéressant? Ben peut-être. Puis en plus, ils ont plein de semi-conducteurs qui rentrent dans l'intelligence artificielle. Donc, encore une fois, ce n'est pas des recommandations d'investissement, mais c'est de penser comme ça, de dire là, peut-être que la probabilité que la Chine envahisse Taïwan est diminuée à cause de la manière que Poutine, il y a plus de problèmes en Ukraine. Donc, Taïwan deviendrait plus intéressant comme investissement. Donc, vraiment d'y aller dans ce genre de réflexion-là, c'est le fun pour trouver des idées d'investissement.
Ouais. Est-ce que tu fais partie de groupes de discussion qui seraient intéressants pour les auditeurs? Des groupes de discussion, comme je te parlais tout à l'heure, sur Facebook, où des gens discutent de la bourse, ou sur Reddit, qu'on parlait tout à l'heure?
Ben oui, j'ai un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Day Trading sur Facebook avec François J. Dubois, qui est un trader à la bourse dans le temps, là, le parquet, là.
Ouais.
Il est vraiment très généreux de sa personne. C'est vraiment une belle communauté, plus de 20 000 personnes. Moi, je publie régulièrement là-dessus, 3 à 4 fois par semaine. Les gens sont vraiment respectueux. Il y a beaucoup de matériel qui est disponible gratuitement. Puis dans un autre ordre d'idée, puis tu sais, je veux pas faire de blog, mais Desjardins Courtage en ligne, tu sais, dans le fond, Yannick, c'est vraiment un endroit où ce que les gens peuvent s'éduquer à
Oui.
faible coût. Tu sais, ils
Ben,
ont quelque chose comme pratiquement 300 séances de formation par année
c'est ça.
pour les clients.
Exact.
Donc, pour ceux et celles qui veulent apprendre, vous allez me dire, tu as un parti pris, Michel, il t'engage des fois. Oui, je m'assume. Mais moi, je vous le dis, si vous voulez apprendre, là, c'est vraiment une belle place, Desjardins Courtage en ligne. Puis d'ailleurs, ça arrive que je fais des conférences soit virtuelles ou en présentiel avec eux autres.
Ah, puis je suis pas gêné, moi, c'est avec Dysnat que je fais affaire aussi.
Ah,
Donc,
OK.
avec Desjardins, la plateforme, je la trouve correcte, je la trouve user-friendly pour monsieur et madame tout le monde. Puis oui, il y a de la formation, moi j'adore ça. Je suis un client de Desjardins, puis depuis que je peux depuis que j'ai Dysnat, en fait, je ne jure que par ça, puis ça va relativement bien. Michel Villa, on invite les auditeurs qui veulent en savoir plus sur toi, sur tes conférences, sur tes livres, à aller directement sur michelvilla.com. Je sais que tu as un nouveau bébé qui s'en vient dans les prochains mois. Tu vas avoir un deuxième livre. Tu en as
Oui.
un. Tu voulais faire bénéficier nos auditeurs de tes livres. Tu en as combien à faire tirer ce soir?
Ben, j'aimerais ça en faire tirer 10 copies.
10
Donc, ça
copies. Tu es
s'appelle.
généreux.
Ouais. Ben, ça fait plaisir.
Tu es très
J'ai eu du
généreux.
fun avec toi, Yannick, aujourd'hui. Donc, ça s'appelle Pile et face, combiner raison et émotion pour réussir en bourse. Donc, 10 copies à faire tirer à ta gang. Donc, participer en grand nombre. Puis le deuxième livre, ben, il devrait sortir en 2025, Yannick.
OK, donc 418-971-1021, 418-971-1021 pour ceux qui voudraient avoir le livre de Michel Villa. Puis parmi tous les participants, bien, je vais faire tirer 10 livres, gracieuseté de Michel. C'est très gentil de ta part. Ça a été une belle rencontre, mon ami. Je te connaissais pas, mais ton visage me disait quelque chose. C'est peut-être en raison du fait que tu étais propriétaire de bar à Québec. C'est pour ça que je me souviens de ta face. Mais, de cette rencontre-là ce soir, j'en suis très satisfait. Puis je pense que les auditeurs aussi sont très satisfaits.
Hey, merci beaucoup Yannick, merci tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter, très apprécié.
Michel Villa, salut, bonne soirée. On se laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une belle soirée à vous-même. Et demain, 11 h, on se reparle pour ce qui est de Marceau le midi. Merci, bye bye.